Salut, salut à toutes et à tous et même bonjour, bienvenue, c'est l'émission mensuelle L'eau à la bouche. L'eau à la bouche, une émission proposée par Radio Pays d'Hérault, diffusée sur Divergence FM, Radio Larzac et Radio Clapas. Ce mois-ci, nous nous intéressons aux activités de l'association Hortus, basée à Montferrier-sur-Lèze, au nord de Montpellier, à travers notamment cette conférence de Jean Barrault, ancien géographe et conférencier, spécialiste des jardins dits contemporains. Reportage réalisé par Mathieu Tellen. Quant aux musiques, nous irons au Mali découvrir la dernière œuvre musicale de Karkar, autrement dit Boubacar Traoré, qui a sorti son album en janvier 2011 intitulé Mali, des nous. Bienvenue à toutes et à tous, c'est l'eau à la bouche.
Mali de nous toye babani bam. Mali de nous toye kobani bam. Mali de nous toye kobani bam. Mali nyamoyo. Awe kofile mali de nous. Mali nyamoyo. Aya kofile mali de nuna.
L'émission L'eau à la bouche vous propose à présent de continuer, poursuivre notre découverte des associations qui travaillent dans les thématiques liées à l'environnement et à l'éducation à l'environnement. Pour cela, j'avais rendez-vous en début de soirée sur la commune de Montferrier-sur-Lèze, à l'espace culturel du Dévézou, pour une conférence de Jean Barrault qui se situe dans la série des conférences sur l'histoire des jardins. Tout cela est organisé par l'association Hortus. Alors pour découvrir cette association Hortus, je suis avec plusieurs personnes qui s'occupent d'animer cette association. Michel Auvergne, Daniel Auvergne, Annie Nivière et Hubert Nivière sont autour de moi. Bonsoir Michel, une présentation de cette association Hortus qui fait elle-même partie d'un club d'association.
C'est le club Hortus fait partie d'une association beaucoup plus large qui regroupe plusieurs clubs. Mais c'est un club, une association à part entière, qui a été créée il y a une vingtaine d'années, 20 ans exactement cette année, autour d'une idée qui était de trouver, d'avoir des jardins, c'était la recherche d'un jardin qui pouvait s'intégrer en Languedoc, faire partie du paysage. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, l'idéal du jardin se situait soit dans les jardins du Val-de-Loire, les jardins anglais, etc., soit dans l'idée d'un jardin méditerranéen qui, en fait, était plutôt un jardin exotique, tropical, la Côte d'Azur. Bon, donc, le Languedoc, après des séries d'échecs cuisants, on s'est mis à chercher une identité au jardin du Languedoc qui tienne compte du climat. Hein, voilà, qui peut être rude, ventée, enfin bon, tout le monde connaît le climat languedocien quand on y habite, hein, voilà. Donc après les gels, tout ce qu'il y a, la sécheresse, la chaleur, etc., on s'est mis à la recherche d'un jardin qui convenait à la région où on était. Bon, alors ça passait, à ce moment-là, on a carrément créé un club d'amateurs de jardin. D'abord, dans un esprit de convivialité pour voir ceux qui pouvaient réussir chez les autres. Et ensuite, alors on s'est mis à rechercher un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on s'est, on s'est commencé par une connaissance de notre environnement et par la recherche de plantes adaptées. Et petit à petit, le club a grossi avec des passionnés, parce que dès qu'il s'agit de jardin, il y a énormément de convivialité, les gens aiment se rencontrer, échanger, et petit à petit, on a enrichi nos gammes d'activités, de rencontres, etc. Et donc, on a ce club, l'élan du club a pu se faire tout au début, il y a une vingtaine d'années, avec la rencontre d'un jardinier passionné qui travaillait au jardin de Saint-Éloi, et un peu plus tard, avec l'arrivée d'une nouvelle génération de pépiniéristes, comme Olivier Philippi, qui sont à la recherche de plantes adaptées, de plantes méditerranéennes adaptées à nos climats à travers les différentes zones du globe dites de climat méditerranéen. Et à partir de là, bon, on organise, alors l'association s'est organisée, on a organisé des rencontres mensuelles qui se font sur différents thèmes. Il y a alors, les techniques de jardinage, par exemple, avec les baobabs, la multiplication, des choses comme ça. Alors, les rencontres se situent soit des conférences sur le type technique de jardinage, soit sur des conférences connaissance des plantes, où on étudie des familles de plantes, soit sur des conceptions de jardin. Ou alors, après ça, on a aussi des visites de jardin. On a également des bourses aux plantes, parce que comme on fait de la multiplication, on fait des échanges. Donc ça reste très convivial. On a également des banques de graines, une banque de graines. Je ne sais pas, Annie, si tu...
Il me semble que vous oubliez ce pourquoi je suis venue ce soir, les conférences.
Dans les conférences, on a vraiment enrichi nos programmes. Voilà. Et c'est pour ça que, pour fêter les 20 ans d'Hortus, on a décidé d'avoir une série de conférences passionnante, et on a eu la chance de rencontrer Jean Barraud, et surtout la chance qu'il accepte de nous faire cette série de conférences sur l'histoire des jardins.
Cette association Hortus est basée ici, sur la commune de Montferrier-sur-Lèze. Vos adhérents viennent de quel territoire ?
Alors écoutez, on a à peu près une centaine d'adhérents qui vont de Nîmes à, on va dire, Béziers, et au nord, jusqu'à, je sais pas, il y a quelques-uns qui étaient chez nous ce soir, qui viennent de Saint-Hippolyte-du-Fort. Voilà, ça fait à peu près ce triangle.
Ce sont toutes et tous des amoureux des jardins.
Ah oui, pour venir de loin, pour écouter Jean Barraud pendant 2 heures, en venant de Saint-Hippolyte-du-Fort, je pense qu'il il faut qu'ils soient intéressés quand même.
Je me tourne vers Annie Nivière. Alors, lorsque l'on propose, par le biais d'une association, d'organiser un programme ou des séries de conférences sur les jardins, à partir de quoi part-on pour rechercher des thématiques qui seraient à même d'intéresser un public suffisamment nombreux pour remplir une salle de conférence ?
Alors, moi, je vais parler de mon point de vue. Moi, ce que je recherche dans une conférence, c'est que l'intervenant sache déjà de quoi il parle. Alors, soit on a des intervenants, on a soit des professionnels, qui peuvent être, par exemple, Olivier Philippi, qui vient nous voir une fois par an en janvier en général, soit des passionnés de jardin, qui font partie eux-mêmes du club Hortus et qui connaissent bien certaines plantes et qui vont venir nous faire une conférence sur cette plante. Qu'est-ce qu'on a encore ? Des spécialistes qui eux aussi vont venir nous faire des conférences ou nous faire comme des travaux pratiques. Par exemple sur le bouturage, comment bien bouturer, sur le semis, sur la multiplication des plantes en général. Mais nous, ce qu'on recherche, c'est quand même des gens qui sachent vraiment de quoi ils parlent et qui soient vraiment, qui pratiquent vraiment le jardinage. Donc, oui. Ça ne nous intéresse pas que ce soit un journaliste généraliste qui vienne nous parler de quelque chose qui n'a pas pratiqué et qui n'a pas mis les mains dans la terre.
Michel Auvergne, vous vouliez ajouter ?
Je veux dire aussi que après, en dehors des pratiques propres au jardinage, on a aussi élargi parce que il y a des amoureux de jardin qui viennent, mais qui n'ont pas forcément un jardin. Et alors ceux-là, par exemple, sont intéressés par les conférences de gens qui parlent de jardin, mais sur un autre plan, ou alors d'ethnobotanique. Ou alors on reçoit également des gens qui viennent d'écrire des livres sur les jardins, mais pas forcément sur les techniques de jardinage.
Je reviens à la conférence de ce soir qui était animée par Jean Barraud. Elle s'inscrit dans une série de conférences sur l'histoire des jardins. Pourquoi avoir choisi cette thématique ?
Pourquoi avoir choisi cette thématique ? Parce qu'il me semble que l'histoire des jardins, pour un jardinier, c'est bien de savoir comment on a initié la culture des jardins, comment, quand et où a démarré le jardin et voir pourquoi on en est arrivé. Enfin, comment et pourquoi on en est arrivé, nous, au XXIe siècle, comment ça se fait qu'on en soit là. Et donc, c'est bon de connaître tout le cheminement de tous les jardiniers qui ont pratiqué de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et c'est une bonne connaissance de tous les jardins. Et ça nous ramène après, nous, à notre jardin, on comprend mieux pourquoi.
Moi, je trouve aussi que c'est une recherche de sens. Parce que avant, ça pouvait être très simple, un jardin. On faisait son potager pour avoir ses légumes. Mais maintenant, souvent, on a des jardins qui sont des jardins d'agrément. Et il y a quand même une recherche de sens. Parce que où on essaie de s'intégrer dans un paysage, mais aussi de comprendre pourquoi on prend tant de plaisir à un jardin, à la conception d'un jardin, au travail, ou même à ne rien faire, à l'observation dans un jardin. Voilà. Et on avait fait souvent, on avait abordé ces sujets, mais à travers simplement des petites époques. Annie nous avait fait une conférence très intéressante sur les jardins du Moyen-Âge, les plantes médicinales, les choses comme ça. Et alors, on avait envie d'aller plus loin et de voir à peu près dans l'histoire quel avait été le sens du jardin, des créations de jardins. Et avec Jean, depuis, c'était vraiment passionnant puisqu'on a commencé quand même avec les Égyptiens, je crois. Hein, voilà. Et donc, on est passé à travers toutes les formes de jardin et tout le sens que ça pouvait avoir dans une société.
Vous proposez tout au long de l'année des conférences sur différentes thématiques. Le choix de ces thématiques est le plus souvent personnel ou bien vous faites aussi l'écho de demandes de certains de vos adhérents ou adhérentes ?
Alors, quand on a des demandes particulières d'adhérents, on essaie de coller à la demande, mais le plus difficile, c'est de trouver un intervenant qui va convenir et qui va accepter de nous faire une conférence, parce que ça, c'est pas très facile.
On se trouve en région Languedoc-Roussillon. Est-ce qu'on compte de nombreux spécialistes ici ou bien il faut aller chercher beaucoup plus loin ?
Non, on a de nombreux spécialistes quand même en Languedoc-Roussillon. Oui, on reste quand même, nos intervenants sont très locaux. Hein. Oui, non, là on n'a pas de soucis. Mais c'est difficile de faire, c'est difficile des fois de trouver un intervenant pour un thème particulier. Donc c'est pour cela qu'on s'y prend longtemps à l'avance pour prévoir ce qu'on va faire sur l'année prochaine. Là déjà on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire sur l'année 2011-2012. Il faut déjà prendre des jalons, faire des jalons. Déjà là on s'en préoccupe et de façon à réfléchir ensemble, puis le fait d'avoir de nombreux adhérents, ça permet que nos adhérents nous amènent leurs idées aussi, leurs connaissances. Chacun connaît plus ou moins du monde qui pourrait faire quelque chose, donc c'est quand même un travail de groupe.
Michel Auvergne, 20 ans d'existence pour cette association Hortus. Est-ce que vous diriez que le ou les jardins font partie du patrimoine culturel de la région Languedoc ?
Mais ça saute pas aux yeux au prime abord.
Expliquez-vous.
Non, parce que au début, on n'a pas vraiment le jardin. Dans les styles, quand on cherche dans les livres ou dans les jardins qui nous entourent, on ne trouve pas de style de jardin typiquement languedocien. Parce que toutes les personnes que je rencontrais au début qui créaient des jardins autour avec pour modèle les jardins du Val-de-Loire ou alors des jardins de la Côte d'Azur. Voilà. On a tous essayé ça. Moi, en plus, en revenant d'Indonésie, je croyais qu'il suffisait de planter un bâton pour que ça fasse un arbre. Bon, et donc, c'est pas évident au départ. Et c'est carrément une recherche. Et ce qui a été merveilleux, je trouve, c'est que dans les mêmes 10 ans qui sont arrivés là, est arrivée toute une génération de pépinières. Parce que les pépiniéristes eux-mêmes vendaient des plantes en grande quantité qui s'adaptaient ou non. Hein, voilà. Alors que maintenant, il y a vraiment une recherche. Et les pépiniéristes qu'on trouve maintenant, qu'on peut rencontrer maintenant, sont des pépiniéristes passionnés. Et qui sont vraiment à la recherche de jardins qui se confondent. L'idée d'un jardin, ce n'est plus l'îlot, le petit paradis enclavé qu'on a autour de la maison. Ça va être une partie de l'environnement. Et alors ça, bon, ça, c'est, ça va être valable sur le choix des plantes, mais ça va être valable aussi la prise en compte de l'environnement, ça va être valable aussi dans les parties que nous avons sur les techniques de jardinage, où on va vraiment rester dans le style de la première conférence qu'on a fait en septembre, soigner les plantes par les plantes, éviter, puisqu'on est là, d'utiliser des produits chimiques, etc. Donc il y a toute une éducation aussi, parce que les premiers jardiniers qu'on rencontre, enfin, le premier conférencier que j'ai pris, hein, il est arrivé avec un livre sur les produits chimiques de, je ne sais plus, Daniel, qu'est-ce que c'était ? Bayer, hein, voilà, pour m'expliquer tout ce qu'il fallait que j'achète pour pulvériser sur mon jardin, qui était à l'époque un morceau de garrigue, de toute façon, je n'avais rien à pulvériser. Hein. Bon, mais c'était ça, pour lui, le jardin. On s'armait de produits, hein, et on allait planter, puis on allait soigner cette plante, l'empêcher d'avoir ci, ça, des pucerons, etc. Alors que nous, on est parti sur une philosophie complètement différente. Parce que moi, j'ai même rencontré quelqu'un qui est venu ici, qui m'a dit, mais alors où il est le jardin ? Ben, j'ai dit, là. Ah oui, mais c'est comme une garrigue. Ben oui. Mais agrémenté. Parce qu'avec Olivier Philippi, par exemple, toutes les plantes, il les trouve dans la nature. Et puis, il les multiplie, etc. Voilà. Alors, c'est une garrigue aménagée. On va choisir des couleurs aussi, on ne va pas tout faire au hasard. Mais on va rester dans des plantes locales. On ne va rien mettre qui choque par rapport à ce qui est à l'extérieur des clôtures.
J'en viens à cette idée du jardin. Est-ce que pour vous, c'est une manière d'amener un coin de nature dans un espace urbanisé ? Le fait de faire un jardin chez soi ?
Ben, je dirais plutôt que la nature, elle y est déjà quand on arrive. Hein. Donc ça sera plutôt de la prolonger jusqu'à la maison. C'est vrai que c'est difficile à dire parce que quand on arrive dans un lotissement, on tombe sur un carré de terrain complètement bouleversé, etc. Et qu'on c'est pas évident non plus de penser ça au départ. Hein. Mais je pense qu'il faut plutôt partir de l'inverse. C'est-à-dire que ça va pas être le jardinier enfin, tel qu'on je le conçois. Hein, parce qu'il y a une autre conception du jardinier qui est la transformation de la nature. Et de faire comme on fait un jardin, comme on fait une œuvre. Nous, dans Hortus, on serait plutôt dans l'esprit de créer un jardin en accord avec la nature, en s'inspirant de la nature.
C'était Michel Auvergne de l'association Hortus au micro de Mathieu Télène pour l'émission L'eau à la bouche. Et dans un instant, nous retrouverons Jean Barraud, géographe et conférencier sur les jardins contemporains.
Nitara kaiba ikamode nufune
Itara kaiba ikamode nufune.
Ça fait environ une quinzaine de minutes qu'il nous écoute, Jean Barreau, qui était donc le conférencier de ce soir, ici, sur cette conférence proposée par l'association Hortus, l'espace culturel du Devezo sur la commune de Montferrier, sur l'Aise. On vient d'entendre la vision du jardin, ou des jardins, peut-être, vaut mieux peut-être parler des jardins, qui est partagée par cette association. Est-ce que vous partagez cette vision?
Oui, parce que je crois que le défaut, l'erreur, mais ça a bien été souligné, c'est de vouloir implanter sur un terrain quelque chose qui relève plus du fantasme que de la connaissance de la nature. On a vu à tel endroit, telle plante, elle est belle, on la voudrait dans le jardin, elle crève, elle est attaquée, elle pousse pas, elle donne pas ce qu'on en attendait, ça marche pas. Donc, quelque part, je crois que faire un jardin, c'est arriver à admettre que on va pouvoir jouer avec la nature à condition d'en accepter les règles du jeu. Et sinon, on peut toujours effectivement fabriquer ex nihilo quelque chose, mais alors là, ça demande une dépense d'énergie, une dépense de produits chimiques, tout ce qu'on peut imaginer. On peut en avoir quelque chose qui est une création ex nihilo qui peut tenir, mais je crois que c'est plutôt à l'heure actuelle cette idée de parvenir à un équilibre avec un environnement, avec un milieu dans lequel on vit le reste du temps. Quand on sort pour les randonnées, moi je vois le dimanche avec les copains, on est dans la garrigue, on est dans les bois, on voit les plantes, on regarde ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que là, on les voit à l'état, on va dire, sauvage, mais que d'un autre côté, il y a une familiarité avec, qui fait que quand on les retrouve et qu'on peut les retrouver dans le jardin, c'est un peu une façon de prolonger un peu la journée qu'on a passée dans cette pleine nature. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je conçois le jardin.
Jean Barreau, vous étiez dans le cadre de cette conférence dans le rôle du conférencier. Quelques mots sur votre parcours et comment est-ce que vous en êtes arrivé à devenir un passionné des jardins?
Disons que c'est un peu par dérive professionnelle, puisque à l'origine, j'ai une formation de géographe et de géographe naturaliste, hein, de géomorphologue. Donc, d'entrée de jeu, si vous voulez, quand on est des géographes, on se préoccupe de paysages pour y retrouver des traces, pour essayer de lire dans ces traces ce qui relève d'héritage, de choses, en particulier en Europe, où on est persuadé qu'on a affaire à des paysages naturels, mais qui sont travaillés depuis 2-3 millénaires, et on n'a pas de paysages naturels. Et même dans des régions, là je viens de finir de lire un ouvrage passionnant de Descola, qui est au Collège de France et qui s'appelle « Par de la nature et culture », il montre que, par exemple, chez les Givarots, chez les Achoirs, la forêt que les Occidentaux ou les explorateurs voient en étant persuadés que c'est la grande forêt vierge, elle est travaillée par les Givarots depuis des générations et des générations, et que ce qu'on prend pour de la grande forêt sauvage, c'est une forêt qu'ils ont travaillée, qui est leur grand jardin. En fait, hein. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas se faire piéger par ça. Et l'apport du regard géographe, c'est d'entrée de jeu, d'essayer de maîtriser ce rapport entre le sol, la végétation, le climat, bref, tout ce qu'on met dans le sac environnement, et pour essayer aussi d'en saisir les dynamiques. Enfin, en gros, c'est ça mon métier au départ, hein, de géographe. Alors à partir de là, pourquoi les jardins? Parce que du paysage naturel, etc., on regarde aussi ce qui se passe dans les environs des villes, dans le centre des villes et autres. Et on peut avoir des idées, quelquefois pour hurler contre ce qui se fait, quelquefois pour dire « Ah ben ça, c'est très beau, c'est chouette, on pourrait aller dans cette direction ». Donc en gros, c'est à partir de là, si vous voulez, quelque chose qui a été le passage du métier au privé et au centre d'intérêt que j'ai pu avoir sur ces jardins.
L'évolution générale des jardins, on va dire en France, ou peut-être en Occident, c'est le passage du jardin vivrier d'antan au jardin d'agrément d'aujourd'hui.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, la première rupture que j'ai essayé de leur signaler, c'est quelque chose qui se passe à la Renaissance quand on change de système ontologique. On est jusqu'à la Renaissance dans un système de type analogique. Alors qu'à partir de la Renaissance, on rentre dans un système de type ontologique naturaliste. Donc ça, c'est une grande rupture. Et ensuite, c'est vrai que la différence qui va se faire, je sais pas si vous étiez au début quand j'ai dit que les jardins ouvriers avaient été victimes à un moment donné du frigo et de la bagnole, ça a rien à voir avec le jardinage. Mais pourtant, c'est quelque chose d'important et qui fait qu'il y a une espèce de déshérence à partir des années 50 de ces formes de jardinage à finalité productive, hein, c'est-à-dire les légumes ou autres. Et on va y revenir par un autre bien, au jardin et au jardin d'agrément, avec quelque chose qui est une mutation dans l'idéologie du développement urbain. Lorsque, vers la fin des années 70, au début des années 80, on dénonce les grands ensembles pour privilégier une approche pavillonnaire de la croissance urbaine. Alors ça, c'est quelque chose qui se situe fin des années 70, début des années 80. Mais du coup, le jardin renaît sous une autre forme. Il renaît non plus sous la forme de la nécessité, puisqu'il y a toujours les surgelés, les frigos comme ça, mais il va renaître sous la forme de l'agrément et un peu d'une espèce de nostalgie de cette relation, notamment que des gens de ma génération, au début des années 80, moi j'ai acheté un terrain et j'ai fait construire ma maison en 78, ça concerne je pense des tas de gens de notre génération, on a vécu dans un monde qui était un monde rural, dans la campagne, un petit bourg du sud-ouest où il y avait 5000 habitants. Et on retrouve par ce biais-là quelque chose qui est un peu à la fois une nostalgie de l'enfance, hein, de cette nature. L'idée de s'insérer, comme on vous l'a expliqué, dans un environnement qui a sa propre logique et où on essaie de s'y adapter. Et puis quelque chose qui est cet abandon du potager à un moment donné sous l'effet de « on n'en a plus la nécessité ». Mais toujours, je crois, l'idée que la production des légumes, c'est quand même quelque chose d'intéressant, une forme de jardinage, une forme de discipline dont on voit si, quand on la respecte, ça marche ou ça marche pas, parce que là, l'échec, il peut être évident. Il y a, je crois, quelque chose qui relève un peu du défi pour les nouvelles générations de retrouver un peu un savoir. Alors, ça a sauté une génération, à mon avis. La génération des parents passe un peu au travers ça. Mais il me semble que chez des gens assez jeunes, on retrouve cette envie de ce contact avec la terre, avec la production agricole, etc., avec des légumes. Et je suis frappé de voir que, par exemple, des propositions comme le jardin au carré, hein, c'est-à-dire quelque chose sur un mètre carré, en multipliant les associations, on arrive à faire une production consommable pour une famille. Y a là quelque chose de tout à fait intéressant, et qui rejoint un peu le plaisir, on dévore sa propre production. Hein, on est à la fois le créateur et le consommateur de sa création. Ça me paraît quelque chose qui revient en force à l'heure actuelle, et qui fait que les jardins familiaux, hein, on va dire, puisque le terme jardin ouvrier est trop connoté, mais que ces jardins familiaux, c'est quelque chose qui est une demande, une attente et quelque chose qui connaît un regain de victoire, de vigueur. Alors que dans les années 70, dans les années 80, c'était quelque chose qui était vraiment abandonné, vraiment abandonné.
Alors, dans cette conférence de ce soir, il était question d'histoire, mais aussi de peut-être plus particulièrement des jardins contemporains. Est-ce qu'il est possible pour les jardins d'aujourd'hui d'en faire une classification, c'est-à-dire d'en énumérer les différents types ?
Alors, il va y avoir effectivement, dans ces jardins contemporains, il me semble qu'il y a effectivement trois grandes tendances, quatre qu'on peut repérer. La première tendance est une tendance qui est de faire le jardin comme une œuvre d'art indifféremment de l'environnement qu'il y a autour. Hein, on va produire quelque chose. Et là, dans la série que j'évoquais d'Arte, j'avais vu un reportage sur un jardin en Australie qui était absolument stupéfiant parce que tout s'articulait sur des graviers. Les végétaux étaient très, très limités. Il y avait du bambou, il y avait quelques fleurs donc qui étaient des protées. Et puis, il y avait essentiellement des structures dérivées de l'architecture qui vraiment structuraient très fortement ce jardin. Et la chose la plus stupéfiante, c'était le feu qui intervenait comme un élément au milieu des plantes. Alors, il y avait quelque chose qui était l'idée, était dans la journée, les plantes qui sont dans le jardin reçoivent la lumière par le haut et projette de l'ombre dans le jardin, et l'organisation des plantes était calculée en fonction du jeu des ombres dans le jardin. Et à la nuit venue, en fonction de l'intensité lumineuse, il y avait un allumage automatique de rampe d'éclairage, mais bec de gaz, et donc qui était positionné de façon à ne jamais mettre le feu, évidemment, aux végétaux, mais qui les illuminait à partir de là, du bas, et en passant par-dessous les feuilles et en donnant un éclairage. C'était quelque chose d'absolument superbe. Mais je veux dire que ça, ça peut être en Australie, ça peut être ici à Montpellier, ça peut être ailleurs. C'est très beau, c'est quelque chose de totalement composé, qui est en rupture complète avec la nature et qui est l'affirmation de la puissance du regard de l'homme dans la création d'une œuvre. Alors ça, c'est un extrême. À l'autre extrême, on aurait les jardins de Gilles Clément, du Jardin en Mouvement, dont le sien qui est sur les rives de la Creuse. Je me souviens plus exactement le nom de son domaine, de sa propriété, si vous savez. Bon, il a, disons qu'il a un jardin, il est sur le plateau au bord de la Creuse, et il a donc une petite partie de plateau et un grand versant qui descend vers la rivière. Et il a décidé de traiter simplement des itinérances, comme il dit, à l'intérieur, c'est-à-dire des façons de se promener. Ce sont les cheminements qui sont à peu près entretenus, parce que quelquefois il en abandonne pour en repartir sur d'autres terrains. Et il laisse le mélange des plantes, il regarde un peu ce qui se passe en dynamique de plantes, des associations qui marchent bien, les associations qui végètent, qui rendent rien. Et il le construit autour d'un mélange de plantes, entre guillemets, civilisées et de plantes sauvages naturelles. Et il regarde comment s'établit l'organisation entre les deux. Et il y a par exemple dans ce type, donc ça, j'ai pas visité sa propriété, j'en ai vu que des séquences de photos, c'est super. Mais par contre, au jardin de Javel, du quai Javel à Paris, il y a donc toute une parcelle qui est traitée comme ça et qui est étonnante parce que à un moment donné, un vieux rosier, enfin une espèce de rosier ancien qui est liane à fleurs simples mais très odoriférant, qui a utilisé comme élément de tuteur un poirier. Et donc, le poirier, c'est étonnant, parce que quand on le voit, on le voit quelquefois crouler sous les fleurs des roses, et qui n'asphyxie quand même pas les propres fleurs du poirier, qui arrive à donner des poires. Et puis, on a dessous ce que nous, on appellerait globalement de l'herbe. Hein, c'est-à-dire, c'est pas des plantes, mais il y a du coquelicot, il y a de la mauve, il y a des choses comme ça qui poussent, qui s'organisent par touffes, et qui d'une saison à l'autre, qui se ressèment, c'est-à-dire qu'elles peuvent disparaître d'un endroit, repousser à un autre, et lui, son œil de jardinier consiste à dire, je tiens compte des propositions de la nature, telles qu'elles se manifestent, et j'essaye à partir de cette proposition de voir comment moi, en tant qu'homme, je peux m'insérer. C'est-à-dire, en tant qu'homme, s'insérer, ça veut dire circuler. Hein. Le jardin est essentiellement, pour moi, quelque chose qui relève, certes, du regard, mais qui relève aussi de la promenade, de l'exploration, du changement des points de vue. Donc un jardin, ça se parcourt. Un jardin, c'est donc ça se parcourt, c'est donc quelque chose qui est aussi qui relève du temps que l'on accepte d'y passer. Hein. C'est quelque chose qui se découvre. Et je crois que ça, c'est les deux extrêmes, disons, de ce qu'on peut avoir comme jardin.
Alors, si je compte bien, il resterait deux grands types.
Qui sont, voilà, et qui sont plutôt articulés d'un côté sur... on essaye de faire un jardin architecturé, maîtrisé, mais... avec quelque chose qui va essayer de respecter un peu les propositions de la nature, mais en ne s'interdisant pas d'insérer à l'intérieur de ce type de jardin des choses qui sont l'intervention humaine forte. Je dessine une allée, je veux qu'elle soit là, j'ai pas envie qu'elle bouge au cours du temps. Je veux installer ici un banc parce que là il y a un arbre qui va me donner de l'ombre et c'est un bon endroit pour s'arrêter et discuter quand on est à l'intérieur de ce jardin. Donc on est encore dans la recherche d'une dynamique de l'environnement, mais que l'on essaye de structurer en fonction du désir de fonctionnement que l'on a dans le jardin. Et puis, plutôt alors, si vous voulez, du côté du jardin totalement atypique, non localisable dans l'espace, ça c'est plutôt le jardin de type à la française, c'est-à-dire que on a d'abord un plan directeur, on conçoit les structures, on peut y importer des plantes extérieures, des plantes étrangères, à condition qu'elles puissent s'y acclimater en pleine terre. Et là, c'est plutôt le jardin de la raison, le jardin de la volonté humaine, mais qui compose quand même avec les plantes qui s'adaptent. Hein. On n'est pas dans quelque chose qui peut être partout et n'importe quoi, comme type de structure, comme dans les jardins très architecturaux que j'évoquais au début. Donc voilà, en gros, si vous voulez, les quatre grandes tendances qu'on peut avoir. Et puis alors après, ça se diversifie avec les envies qu'on peut avoir les uns des autres de rajouter. Quelques-uns verront un jardin plutôt janséniste, c'est-à-dire un banc, quelque chose de minimaliste comme intervention humaine. Et puis à côté de ça, on aura la vision baroque avec des fontaines, des statues, des rochers, et un baroque très populaire avec les nains de jardin, les petits moulins comme le jardin que j'ai présenté de l'île de Marken qui m'avait frappé. Mais on rencontre ça dans des tas d'autres régions, environnements, hein, ce type de jardin.
Vous écoutez L'eau à la bouche, une émission proposée par Mathieu Tellen et Adrien Delgrange, diffusée sur plusieurs radios associatives, Radio Pays d'Hérault, Radio Larzac, Divergence FM et Radio Clapas.
Kangandigi kenya ne manifi undigi dunye kelene Emba denu yo kangandigi kenya ne manifi undigi dunye kelene Masikana jugu mina kumaye Mbade nyodu naro Masikana jugu mina kumaye Jugu kumabe mabali sokela Jugu kumabe mabali dumunina Jugu kumabe mabali sokela Jugu kumabe mabali dumunina Embade nu yo kangandigi kenya nye manifi unjigi dunye kelele.
Oluna kuma bema son akilila. Olufa kuma bema son akilila.
Jean Barraud, alors vous, vous proposez de découvrir les jardins sur la base d'un matériel photographique qui est très important et qui permet de faire un tour du monde des jardins. Lorsque l'on commence à parcourir le monde et à parcourir ces jardins, est-ce qu'il est possible de s'arrêter de faire ça?
Ah non, ça... la preuve c'est que je pars dans quelques jours. Non, ça moi quand je pars en voyage, j'essaie toujours de me caler un ou deux jardins et c'est toujours un plaisir. D'abord, c'est au milieu d'un voyage, c'est un temps de détente, de respiration, que de laisser comme ça aux gens une demi-journée ou une journée complète dans un jardin. Chacun le vit un peu à son rythme. Et donc, alors ceci dit, pour les photos, toutes ne sont pas de ma production, parce qu'il y a quand même aussi soit j'ai des photos qui sont pas bonnes. Donc, en gros, si vous voulez, la proportion, c'est à peu près 2/3, 3/4 de photos personnelles et 1/4, 1/4 de photos que je récupère sur Internet, notamment pour tout ce qui est vue aérienne. Plan masse ou des choses comme ça, où là évidemment on est obligé de se référer à des images, à une imagerie satellite ou à des choses comme ça pour avoir des détails sur les jardins.
Là, c'est le géographe qui vient de parler. Je vous reprécise ma question, en fait c'était de savoir, lorsque l'on parcourt le monde et que l'on parcourt ces jardins, est-ce qu'au bout d'un moment on finit par se dire ben là je suis en train de tourner en rond, je revois des choses que j'ai déjà vues, ou bien au contraire est-ce que vous allez toujours de surprise en surprise en disant ben finalement chaque culture a ses jardins et puis le monde est très riche en termes de diversité végétale, animale, ce que l'on veut, mais aussi en termes de diversité des jardins?
Alors, c'est pas si simple, parce que en fait, on se rend compte qu'il y a... là, je suis assez d'accord avec un de mes collègues, Augustin Berck, un géographe, qui dit qu'il y a que deux grandes civilisations qui ont été jardinistes. Hein. Donc ça, c'est quand même aussi une limite. Donc il y a des pays où des territoires où le jardin est quelque chose qui est vraiment une émanation culturelle. Et les modèles qui se transposent, si on prend par exemple celui par lequel j'ai commencé dans la première conférence, les jardins de type persan, hein, qui sont dans les premiers qu'on peut repérer, ils sont un peu antérieurs dans ce que l'on en a comme connaissance livresque, parce que iconographiquement, les images qu'on en a sont postérieures aux premières images de jardins égyptiens. Mais les descriptions dans les textes de premiers jardins sont effectivement en Mésopotamie, hein, que l'on va trouver. Et là, on se rend compte qu'un modèle, qui est un modèle très simple, qui est le modèle du jardin carré, avec une croix centrale de rivière, etc. Donc quelque chose qui est ce qu'on appelle un charbag, va être réinterprété à la fois dans le temps, jusque dans les périodes très contemporaines, à l'heure actuelle, mais va aussi bien être représenté et traité d'une certaine façon, par exemple dans le Taj Mahal, qui date du XVIIIe siècle dans le nord de l'Inde, au moment de l'apogée de la dynastie moghole, que de quelque chose qu'on peut trouver en Andalousie, remontant à la période d'avant la reconquête de Grenade, donc avant le XVe siècle, et qui est une autre interprétation qui en est donnée. Mais on retrouve quand même la structure de base qui est le carré, le croisement des ruisseaux, la fontaine centrale, etc. Donc on retrouve des structures d'un pays à l'autre. On retrouve en Asie la structure du jardin chinois. On la retrouve très très directement au Japon, en Asie du Sud-Est, etc. Donc là, c'est un jardin de yin et de yang. Il y a obligatoirement, c'est un jardin d'ontologie analogique. Hein, donc il faut qu'il y ait du yin et du yang, de la montagne et de l'eau, donc du lac, etc. C'est un jardin de cheminement. Et ce type de structure, on va la retrouver. Mais par contre, ce qu'on découvre en parcourant le monde, c'est que la réinterprétation peut être tout à fait étonnante. D'abord, en fonction des plantes qu'on va rencontrer. Il est évident que vous n'allez pas trouver en Andalousie le même type de végétation que vous avez dans la vallée du Gange. Hein, donc déjà, au point de vue de l'environnement végétal, des parfums, des couleurs, c'est un environnement qui est à chaque fois une découverte, un peu comme une familiarité, si vous voulez, où on n'est pas perdu, parce qu'on sait comment fonctionne l'espace, mais où en même temps, dans ce qui est la découverte des plantes, les sons, les odeurs, les couleurs, etc., c'est à chaque fois quelque chose qui va se renouveler. Deuxième exemple que je pourrais donner, c'est sur des jardins comme ceux, par exemple, de Burle-Mars, que j'ai présenté là au Brésil. Il relève toujours de l'esthétique un peu qu'il a eu, de l'exploitation du cubisme, de l'intervention de l'architecture dans l'espace naturel. Mais la sélection de plantes qu'il a faites donne des panoramas de couleurs, des panoramas de paysages qui sont très différents de la zone, par exemple, de Petropolis, qui se situe dans une zone de moyenne montagne, à 1500 mètres d'altitude à peu près, donc un climat plutôt tempéré, et où au départ, justement, on avait essayé d'acclimater les platanes. Hein. Ce qui l'a fait hurler. Et puis, quand vous passez, par exemple, vers le sud, à São Paulo, où là, vous avez un autre type d'environnement, vous êtes là aussi sur un plateau, mais c'est beaucoup plus sec, c'est pas du tout le même type d'environnement végétal, et Burle-Marx a travaillé aussi bien dans l'une ou l'autre des régions. Et un jardin de Burle-Marx, ça se reconnaît au type de rapport qu'il y a entre le végétal et le minéral à travers cette vision du cubisme qu'il a, mais en même temps, ce sont des jardins qui sont très différents et où on va découvrir à chaque fois autre chose. Je ne sais pas s'il me fait bien comprendre, entre cette histoire de structure qui est familière et cette histoire de différenciation où à chaque fois, on a une réinterprétation de ce panorama, de ce paysage, etc. Et Burle-Marx a fait, en termes d'environnement, a été un des très très grands contemporains, parce que ça a été, quand il est revenu au Brésil, il est parti en Amazonie pour essayer de collecter des plantes de son pays qu'il ne connaissait pas, qu'il avait découvert, dont il avait découvert les noms ou les exemplaires dans la serre de Dahlen à Berlin. Donc il faut le faire. Et dans son sitio, il a réussi à dresser, et c'est ce qui a fait que c'est l'université qui a accepté de reprendre le site, et il a fait un relevé, il doit y avoir une centaine de milliers de plantes qui sont enregistrées, dont au moins la moitié était totalement inconnue avant qu'il ne se lance à leur recherche en Amazonie, en essayant de regarder un peu ce qu'ils trouvaient sur le Mato Grosso, etc. C'est un véritable conservatoire végétal, et son sitio, c'est quelque chose d'impressionnant comme parcours de jardin, quoi. On se laisse emporter. À la fois, on est familier, et en même temps, c'est quelque chose qui est fascinant, parce que c'est toujours différent.
Tout à l'heure, Michel Auvergne nous disait que l'association Hortus propose plusieurs fois par an des bourses d'échange de graines. Est-ce que c'est aussi un des rôles des jardins de participer à une conservation de diversité de la nature ?
Ah, tout à fait. Ah oui, là, la réponse est claire, elle est rapide, elle est formelle, oui.
On quitte le monde et puis je vous propose de revenir à une échelle plus locale. Si on se rapprochait du jardin ou des jardins du Languedoc, quelle description on pourrait en faire ?
Ah, alors là, comme elle vous l'a dit, il y en a pas. Jusqu'à récemment. Pensez par exemple à un très beau jardin que j'aime bien, qui est ouvert, qui est le jardin du château de Flaugergue. Qu'est-ce qu'il a de méditerranéen ? Une belle allée d'oliviers qui ouvre sur une terrasse, qui ouvrait autrefois sur le paysage de vignes et qui ouvre aujourd'hui sur Ikea. Donc, le point de vue de la terrasse, c'est quand même un peu sabordé. On regarde de l'autre côté, toujours de la terrasse, il y a un beau jardin à la française, en descendant devant, qui donnait sur une belle allée de platanes et avec en perspective la ville de Montpellier dans le lointain. Il y a maintenant des immeubles de bureaux qui sont au ras. Le château coûte cher à entretenir, le propriétaire a vendu un certain nombre de parcelles pour pouvoir continuer à aménager son château. Donc il n'a, disons, si on conçoit le jardin languedocien comme quelque chose qui participe d'un espace plus vaste, le monde méditerranéen, je pense qu'il y a effectivement, à travers les modèles toscans qui ont pu être repris, une ambiance climatique beaucoup plus rude, certes, mais qui, à la limite, peut être compatible avec un environnement languedocien. Mais je pense que là aussi, c'est quelque chose où le jardin n'a pas nécessairement existé de tout temps à jamais. Hein. Il y a une très grande période dans laquelle, entre la fin de l'Empire romain et, disons, la Renaissance, il n'y a pas de jardin, au sens strict. Il y a des jardins de couvents, il y a des cloîtres, mais ce n'est pas des jardins. Hein, ce sont des lieux de méditation. Il y a des jardins de curés, ça c'est médicinal, c'est la pharmacopée qui intervient. Et il faut attendre la Renaissance pour qu'on revoie l'idée d'un jardin qui va être un jardin d'agrément, un jardin de loisirs, et qui est un jardin qu'on parcourt avec un regard d'amoureux. Le moine dans son cloître, il n'est pas amoureux du cloître, hein. Il est dans sa prière, il est dans sa méditation. Donc je crois que c'est ça un peu qui fait que dans le Languedoc-Roussillon, jusqu'à la période, disons, de la fin du XVIIIe siècle, il y a des jardins qui sont greffés autour des folies, ou quelques jardins urbains du type du Pérou, mais qui sont plus des jardins d'inspiration aristocratique et à la française, que des jardins qui ont la préoccupation d'être des jardins représentatifs du Languedoc. Hein, c'est pas un problème. Et alors, au XIXe siècle, avec l'invasion de la vigne, là, c'est fini. Le jardin qu'on va voir dans les châteaux que se font construire, les riches viticulteurs du secteur, vous avez qu'à voir à quoi ça ressemble dans la région de Béziers. C'est principalement du néo-gothique, hein, qui est utilisé, de l'ardoise, pas de la tuile. Un très grand cèdre au milieu de la cour, c'est beau, ça a de l'allure, et plutôt un traitement un peu à l'anglaise, enfin, avec les allées, mais c'est pas spécifiquement languedocien. Donc je crois que je suis, comme Michel Auvergne le disait au début, convaincu qu'il y avait de jardin méditerranéen en tant que tel, avant qu'on ne commence à s'en préoccuper. Maintenant, il peut y en avoir, effectivement. Donc des gens qui font des recherches sur quelque chose d'économe en eau, quelque chose qui supporte la rudesse des alternances climatiques. Et il y a effectivement, à l'heure actuelle, il commence à y avoir des jardins, souvent des jardins privés, qui se soucient de ce type d'accord et qui sont en train de créer, entre guillemets, un modèle, mais qui n'a pas, à mon avis, d'antécédence, hein, dans la région.
Lorsque l'on parle de jardin, on parle de plantes. Ici, on se situe dans la région méditerranéenne. Quelles seraient les grandes familles de plantes qui ont toute leur place dans un jardin du Languedoc, ou plus largement un jardin méditerranéen ?
Là, je vois que c'est pour Annie Nivière qui peut mieux répondre, parce que un des problèmes que l'on ne doit pas oublier, c'est que le paysage qu'on voit et qu'on qualifie de languedocien, il a été travaillé depuis le néolithique par des pasteurs qui n'ont pas hésité à brûler. Et ce qu'on voit, c'est un pseudo-climax, c'est-à-dire c'est une forêt qui est en équilibre au climat actuel, mais qui n'est pas la forêt originelle de départ. La forêt originelle de départ, elle a été détruite au cours du néolithique. Le chêne vert a remplacé le chêne pédonculé ou le chêne blanc, et on a des forêts qui nous semblent être en accord et en appartenance au paysage, mais qui sont en fait des formes dégradées par la façon dont on l'a exploité, cette forêt, pendant des années. Alors c'est vrai qu'après, la forêt peut, quand on abandonne son exploitation, il peut y avoir un retour à un certain équilibre, mais je crois qu'il faut abandonner l'idée de c'est similaire à ce qu'il y avait à l'origine. Hein, il y a peu de temps, je crois c'est il y a 3-4 ans, à Restinclière, une exposition qui était particulièrement intéressante, qui consistait à confronter des photos prises vers 1900, c'est-à-dire à un moment donné où dans la région on consomme beaucoup de charbon de bois, où il y a des charbonnières un peu partout dans les flancs, et où toutes les berges de l'Hérault, tous les plateaux, le plateau du Thorac, etc., c'est totalement déboisé. Il n'y a rien, c'est nu. Et puis, les photos qu'on peut prendre aujourd'hui du même point de vue de ces lieux, qui sont complètement couverts par une chaînée de chênes verts, ou au moins par une brousse à kermesse, enfin des choses comme ça, qui ont reconquis cet espace. Mais c'est une formation secondaire, c'est une formation qui est capable de résister aux sorts qu'on a fait subir au sol, qui ont été lavés, lessivés, emportés dans les alluvions. Donc il faut que ça pousse sur le clapas et il n'y a plus que les espèces les plus costaudes qui peuvent se réadapter là-dessus.
Merci Jean Barraud, vous m'avez tendu une perche, je vous la saisis. Annie Nivière, quelles sont les plantes que l'on retrouve assez facilement dans votre jardin?
Alors dans mon jardin, on retrouve facilement justement les chênes verts, les chênes blancs, les chênes kermès. Et ensuite, ce qui est venu après, donc les oliviers, quelques oliviers qui sont restés. Et puis des pins d'Alep qui se sont implantés et qui ont un peu envahi les anciennes oliveraies sur lesquelles est mon jardin actuellement. Donc il faut composer avec cette végétation, on va dire, indigène, qui était là quand je suis arrivée. Et puis moi, l'idée que je me fais d'un jardin qui est plus jardin d'agrément. Donc il faut faire avec, sans essayer de tout bouleverser. Donc moi, c'était mon but depuis maintenant une trentaine d'années que je cultive ce jardin. Il a fallu d'abord que je m'habitue, puisque moi je venais de Montpellier Sud où la terre est profonde, l'eau est abondante, et donc j'ai perdu tous mes repères en arrivant ici au nord de Montpellier. Donc je n'ai pas voulu bouleverser l'existant, donc j'ai fait avec les lauriers-teints, j'ai planté quelques pithosporums et j'ai essayé petit à petit de voir ce qui allait pousser chez moi. Et c'est ce qui m'a fait partir sur une recherche de plantes qui résistait à la sécheresse, ça c'est un point essentiel pour moi, et qui pouvait résister également aux coups de foin intempestifs qu'on a en hiver. Ce qui fait que j'ai eu au départ un jardin expérimental, ou d'expérimentation. Et le vrai jardin a mis un peu de temps pour s'établir. Donc là, je crois que maintenant, je commence à comprendre... qu'est-ce qu'il vaut mieux que je plante et qu'est-ce qu'il ne faut pas que je plante. Bon, et ma vie de jardinière est faite d'expériences. Et j'essaie de faire part donc de mes expériences aux adhérents d'Hortus en faisant de temps en temps ce qu'on appelle un coup de cœur. Alors tous les mois, on fait un coup de cœur alternativement. Alors c'est avec Elisabeth, qui est aussi une adhérente d'Hortus. On fait un coup de cœur sur une plante qui se plaît dans notre jardin. Alors ça va de l'arbuste à... des arbustes, des plantes vivaces qu'on a expérimentées et qui ont... disons qu'ils donnent de bons résultats. Alors quand on met un coup de cœur, en général, les adhérents peuvent y aller, c'est bon, c'est expérimenté, ils peuvent foncer, l'acheter, en général ça va marcher.
Merci à Michel et Daniel Auvergne, ainsi que Annie et Hubert Nivière de l'association Domaine de l'Hortus, ainsi que à Jean Barraud. Un dernier mot à Hubert Nivière. Pour avoir plus d'informations sur l'association Hortus, quel est le... Alors c'est vous qui vous occupez, qui développez le site internet de l'association Hortus. Donc juste son adresse.
Oui, juste l'adresse http://hortus.acl.ufri.fr.
Et peut-être un numéro de téléphone pour l'association Hortus, Michel Auvergne.
04 67 59 90 99.
C'est la fin de cette émission inter-associative L'eau à la bouche, diffusée en ce mois de mars 2011. Merci à Mathieu Tellen pour tous ses reportages. La musique était signée Boubacar Traoré avec cet album sorti en début d'année intitulé Mali des nous. Et rendez-vous le mois prochain. À très bientôt, au revoir.